Les chapitres 3 et 4 du livre d'Exode racontent un des moments les plus critiques dans la vie de Moïse, son appel à servir Dieu. La Bible ne parle pas d'appel antérieur. C'est vrai que selon Actes chapitre 11, Moïse était convaincu que ses frères juifs comprendraient que Dieu leur apportait la délivrance à travers lui quand il a tué un Égyptien et que le lendemain, il voulait réconcilier deux Israélites qui se bagarraient. Quel mauvais calcul de sa part. Il a dû fuir l'Égypte sans avoir sauvé personne. La dernière fois que nous avons regardé la vie de Moïse, nous avons vu comment il a réussi dans sa fuite en évitant de se faire arrêter et a été recueilli dans la famille d'un prêtre madianite. Il s'était marié, a eu deux fils avec sa femme et pendant 40 ans travaillé comme berger chez son beau-père. C'était suffisamment de temps pour mettre loin derrière lui les projets et les déceptions de sa jeunesse. Et maintenant, à 80 ans, il est possible qu'il ait imaginé que sa vie allait se terminer là, dans le désert, oublié de tous. Eh bien, c'est vrai, il allait terminer sa vie dans ce désert, mais pas comme il a pu imaginer et certainement pas oublié de tous. Il était toujours la personne que Dieu voulait utiliser et apparemment le temps était enfin arrivé de délivrer son peuple. Nous ne comprenons pas tout des agissements de Dieu dans la vie de Moïse, mais il y a des commentateurs qui trouvent dans une prophétie faite à Abraham une raison de ce délai. Dans Genèse chapitre 15 verset 13, Dieu avait prédit qu'Israël allait passer 400 ans dans un pays qui n'était pas le leur. Alors, soit Moïse ne connaissait pas cette prophétie quand il a tué l'Égyptien, soit il a mal calculé les 400 ans. D'autres étudiants de la Bible soulignent le fait que cette même prophétie disait que Dieu n'allait pas intervenir plus tôt parce que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Genèse 15, 16. Dans un sens, Dieu allait renouveler ses grâces aux Israélites seulement lorsqu'il était clair que les Amoréens l'avaient refusé. Mais maintenant, le temps était mûr. Dieu allait œuvrer à travers un homme qu'il avait préparé et qu'il allait maintenant appeler. Ce n'est pas que Dieu ait besoin d'aide humaine pour accomplir sa volonté, loin de là. Après tout, il a créé l'univers et le soutient depuis, sans aucune aide ni conseil. Ceci en dépit du fait que Adam avait bien compliqué le travail en permettant au péché d'entrer dans le monde, ce qui a affecté l'humanité entière et a fait venir une malédiction sur toute la création. Dieu a suffisamment de sagesse, voyez-vous, de puissance et d'amour pour faire toutes choses belles en son temps sans mon aide, ni la vôtre, ni celle de Moïse. Et cependant, il choisit souvent de nous envoyer en son service. On pourrait se demander pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il veut ma faible participation, mais dans le cas de Moïse, il me semble qu'il voulait donner au monde une illustration de l'œuvre de son fils Jésus-Christ. Jésus allait accepter de devenir notre frère, comme Moïse, et de souffrir le rejet des siens, comme Moïse, afin de nous sauver du péché par son sacrifice, pas comme Moïse, qui tournait l'attention d'Israël seulement vers le Dieu rédempteur. Comme nous l'avons dit dans une prédication précédente, Moïse était dans un sens limité, le Messie, celui que Dieu avait oint pour délivrer son peuple à cette époque. Mais convaincre Moïse de le servir allait être très compliqué. Vous savez, il n'est pas toujours facile de convaincre quelqu'un de recommencer quelque chose qu'il a déjà échoué à faire. L'enfant qui tombe et écorche son coude ou son genou en essayant d'apprendre à faire du vélo va hésiter à se remettre en selle. C'est donc tout à fait compréhensible que Moïse ait des doutes concernant ses qualifications personnelles, ainsi que des craintes d'être à nouveau rejeté. Et je comprends qu'il n'ait aucune envie de risquer encore la mort. Ça, il avait déjà fait sans tirer aucun bénéfice, ni pour lui, ni pour ses frères esclaves. Quelle assurance avait-il que cela marcherait cette fois-ci? La réponse se tient en un seul mot, Dieu. Dieu allait lui donner les qualifications personnelles dont il avait besoin. Dieu allait le protéger et lui donner cette foi, le succès. Mais Moïse avait besoin d'être rassuré. Et c'est ce que Dieu a fait le jour où il a appelé. Comment l'a-t-il encouragé? L'histoire de l'appel de Moïse est trop longue pour la lire dans son intégralité, mais j'aimerais lire pour le moment les versets 1 à 13 de Exode chapitre 3. Je lis donc. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je le dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Maintenant, regardons 8 étapes dans cet appel de Moïse, en remarquant comment Dieu cherchait à le rassurer concernant cette mission qu'il trouvait si difficile. Premièrement, Dieu a attiré son attention par un buisson ardent, c'est-à-dire un buisson qui brûlait. Chapitre 3, versets 1 à 3. Le texte nous dit que l'ange de l'Éternel apparaissait dans la flamme au milieu du buisson, qui n'était pourtant pas consumé. Cet ange est identifié dans la suite du texte à Dieu lui-même, à l'Éternel. Dieu voulait révéler à Moïse quelque chose concernant lui-même, au moins. Que voulait-il communiquer? Ben, tout d'abord, il était évident que s'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, il est toujours vivant. Le voilà qui réapparaît avec de nouvelles révélations. C'était le sens de son nom, « Je suis celui qui suis ». Il est l'Éternel, qui vit d'éternité en éternité. Ensuite, Dieu est glorieux. Le mot en hébreu pour la flamme dans le buisson s'apparente au mot « Shekinah » employé ailleurs pour la gloire de Dieu. C'était cette lumière qui a attiré Moïse. Dans un très proche avenir, Dieu allait accompagner visiblement son peuple dans le désert sous la forme d'une colonne de feu. Et cette gloire lumineuse allait aussi remplir le tabernacle que les Israélites allaient fabriquer. Oui, Dieu est glorieux. Enfin, Dieu existe par lui-même. Ce qui a particulièrement intrigué Moïse est que la flamme de feu ne consumait pas le buisson. Moïse avait certainement eu l'occasion de voir la foudre, par exemple, frapper dans le désert, mais à chaque fois, la végétation brûlait. Il n'en restait plus rien. Par contre, cette flamme ne consumait pas le buisson. Elle n'avait donc pas besoin de combustible pour brûler. Il brûlait, ou elle brûlait, excusez-moi, tout seul de lui-même. De la même manière, Dieu existe sans dépendre de rien en dehors de lui-même. Il n'a pas été créé, il existe par lui-même. C'est pour cela qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que représente le buisson du centre duquel Dieu parlait? Pour répondre à cette question, il faut se demander en quoi ou en qui Dieu se manifeste habituellement. La création révèle les perfections de Dieu. C'est ce que nous appelons la révélation naturelle ou générale. Mais il a choisi de se manifester d'une manière spéciale à son peuple Israël et par lui au monde entier. Seulement, rencontrer Dieu faisait peur à Moïse et à d'autres après lui. Pouvait-on voir Dieu sans mourir? Les Israélites allaient souvent mériter sa colère, c'est vrai, mais leur propre histoire aurait dû les convaincre qu'en plus d'être juste, Dieu est plein de grâce. Il cherche à rencontrer son peuple et à vivre au milieu de lui. En tant que Dieu de grâce, il avait appelé unilatéralement un homme totalement inconnu jusqu'alors, Abraham, un Mésopotamien, pour susciter la foi en lui et faire de ses descendants une grande et nouvelle nation. En le faisant, il a changé son nom à Abraham. Lui a permis d'être une bénédiction et de bénir ceux qui allaient le bénir et maudire ceux qui allaient le maudire. N'est-ce pas de la grâce? Dieu a aussi permis à Isaac et à Rebecca de devenir parents, alors qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Puis il leur a renouvelé les promesses faites à Abraham, et comme ils se trouvaient souvent, malgré eux, en conflit avec les autres habitants du pays, Dieu les a protégés et les a fait prospérer. Quelle grâce! Enfin, par sa grâce, Dieu a aussi accompagné Jacob pendant sa fuite, loin de sa famille et de son pays, et lui a permis de devenir le père d'une famille nombreuse. Il lui a accordé des richesses, tout en le protégeant de beaucoup de ruses. Puis Dieu lui est apparu pour le reconduire dans son propre pays et a changé son nom à Israël. C'est ce même Dieu qui a protégé les Israélites en Égypte pendant la période de leur esclavage pour qu'ils deviennent une famille nombreuse. Et comme il avait fait pour Jacob, Dieu apparaissait de nouveau à son peuple dans la personne de Moïse pour dire « Il est l'heure de rentrer chez vous ». Voyez-vous, le Dieu du buisson ardent avait démontré à maintes reprises son désir de vivre au milieu de son peuple et de le bénir. Quel encouragement pour Moïse! Il pouvait enfin voir la réalisation du désir de son cœur. La foi de Moïse a-t-elle été boostée par ce signe du buisson ardent? Je crois que oui, car Moïse a répondu « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je le dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » C'était la première étape de son appel. La deuxième étape, dans le chapitre 3, versets 4 à 10, c'était que Dieu a parlé face à face avec Moïse, révélant qui il était, qu'il voyait des souffrances d'Israël et qu'il était descendu pour délivrer son peuple de l'Égypte et de les conduire à la terre promise. Pour le faire, il voulait renvoyer Moïse en Égypte pour parler au Pharaon et diriger les Israélites. Quelle grâce, n'est-ce pas? Et quel honneur de servir de porte-parole de l'Éternel. Ni Moïse, ni Israël n'avaient été oubliés. Puis dans chapitre 3, versets 11 et 12, Dieu a assuré Moïse qu'il serait avec lui. La preuve était que lui et ses frères libérés allaient retourner à la montagne du buisson ardent pour adorer l'Éternel. Nous savons plus tard que Moïse allait ressentir le poids de conduire seul le peuple de Dieu dans le désert. Alors dès le départ, Dieu l'assure de sa présence, de son appui et de la réussite de sa mission. La quatrième étape était de révéler son nom personnel, Yahweh, afin de prouver aux Juifs qu'il avait réellement envoyé Moïse, chapitre 3, versets 13 à 15, que nous avons lu. Ce nom est tiré du verbe « être » en hébreu, ce qui est traduit dans nos Bibles par « éternel ». C'était le même Dieu qu'avait connu Abraham, Isaac et Jacob, comme nous avons vu, mais ils ne l'ont pas connu sous ce nom. Nous connaissons ce même Dieu, car il n'y en a qu'un, à travers quelqu'un d'autre, à travers son Fils, Jésus. Connaissez-vous Dieu, mon ami? Je ne vous demande pas si vous avez certaines connaissances de Dieu, mais si vous pouvez dire que Dieu agit dans votre vie à travers Jésus, comme il a agi en faveur des Juifs il y a très longtemps par les patriarches et Moïse. À travers eux, Dieu les a fait devenir son peuple, les a sauvés et conduits vers la terre promise. Alors, Dieu vous a-t-il sauvé de vos péchés? Faites-vous partie du peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes sûr d'être en chemin vers la patrie céleste? Jésus peut faire tout cela pour vous si vous le lui demandez avec foi. Nous découvrons la cinquième étape dans l'appel de Moïse dans chapitre 3, versets 16 à 17, où l'Éternel a donné à Moïse des instructions simples et claires pour qu'il n'ait pas à improviser tout seul pour délivrer ses frères. De cette manière, il n'aurait pas non plus peur de réagir inconsidérément comme il avait fait 40 ans plus tôt. Ensuite, Dieu a promis que les Israélites allaient croire Moïse et que même si le Pharaon n'allait pas vouloir coopérer, Dieu allait lui forcer la main pour que les Juifs partent avec beaucoup de richesses. Chapitre 3, versets 18 à 22. Obstacle, il y en aurait, mais l'issue était garantie. Quel encouragement! La septième étape se trouve dans le chapitre 4, versets 1 à 9, où Dieu a donné trois signes pour convaincre Moïse qu'il était vraiment son envoyé. Moïse ne croyait toujours pas que ses frères allaient l'accepter. Il a carrément contredit ce que Dieu venait de promettre. C'est donc lui qui ne croyait pas Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu a répondu aux craintes de Moïse d'être rejeté de nouveau par son peuple, en lui donnant trois signes. Le premier signe était que Dieu allait transformer le bâton de Moïse en serpent lorsqu'il le jetterait par terre, puis le faire redevenir un bâton quand Moïse le reprendrait par la queue. Dans le deuxième signe, Dieu allait rendre la main de Moïse lépreuse lorsqu'il la mettrait dans son sein et puis la faire redevenir saine quand il l'y remettrait une seconde fois. Enfin, si les Juifs persistaient dans leur incrédulité, comme Moïse semblait le croire, Dieu allait transformer l'eau du Nil en sang quand Moïse en verserait par terre. Ces trois miracles sont appelés des signes, c'est-à-dire que l'Éternel, comme un professeur, allait enseigner quelque chose à son peuple par eux. Les deux premiers signes se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas, et ont certainement le même message. Deux choses utiles, un bâton et une main, allaient devenir des objets de crainte, un serpent et la lèpre. Puis, suite à l'obéissance de Moïse, Dieu allait redonner la santé et l'utilité à ces deux choses. Que l'on pense que le bâton et la main représentent Moïse ou le peuple d'Israël, le message reste le même. Si les Israélites suivaient Moïse, Dieu allait leur faire retrouver leur vie d'avant. Moïse et les Israélites avaient connu un temps béni, n'est-ce pas? Suivi d'une période où l'on avait peur d'eux. Mais maintenant, Dieu allait les faire retrouver leur première prospérité. Si le message est sensiblement le même, pourquoi le dire deux fois? La réponse, je crois, se trouve dans l'histoire de Joseph, qui a interprété deux révélations que Dieu avait faites dans des rêves à un autre pharaon plus tôt. Vous vous souvenez des sept vaches laides qui mangeaient sept vaches grasses et les sept épis brûlés par le soleil qui engloutissaient sept épis bien pleins? Là aussi, les deux rêves portaient le même message de sept années d'abondance suivies de sept années de famine. Joseph a dit au pharaon que le redoublement du rêve indiquait que ces 14 ans d'abondance et de sécheresse étaient arrêtés par Dieu et qu'ils allaient s'accomplir dans un avenir très proche, Genèse 41, 32. Par conséquent, il était urgent d'agir, ce que Pharaon a fait. Que Dieu donne donc à Moïse deux signes qui se ressemblaient, Et non pas seulement un, devait pousser Israël à réagir immédiatement. Et que devait-il faire? Ben, aller avec Moïse, voir le Pharaon, puis sortir de l'Égypte. Le troisième signe, l'eau du Nil qui se transforme en sang, est différent des deux premiers. D'abord, en ce que l'eau n'a aucun lien avec Moïse. Elle n'était pas comme sa main ou son bâton. Cette fois-ci, il n'y a pas de retour en arrière non plus. L'eau qui se transforme en sang ne redevient pas l'eau. Que veut dire ce signe? L'eau du Nil était essentielle à la vie en Égypte. Mais ici, elle est transformée en sang, ce qui représente évidemment la mort. Il y a, me semble-t-il, donc une prophétie que la confrontation entre les Égyptiens et Moïse allait se terminer dans la mort pour les Égyptiens. Ces trois signes montrent qu'il ne pouvait avoir aucun doute, Dieu allait intervenir en faveur de son peuple pour le délivrer de son esclavage à travers son serviteur Moïse. Et puis la dernière chose que Dieu a fait pour rassurer Moïse était de lui donner Aaron, son frère aîné, pour parler au Pharaon à sa place. Chapitre 4, verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. C'est vrai que Dieu s'était mis en colère contre le refus obstiné de Moïse. Mais au lieu de le juger comme il méritait, Dieu, dans sa miséricorde, a de nouveau répondu à ses craintes et hésitations. Il se peut que quelqu'un qui entend ma voix aujourd'hui ressente un appel de Dieu pour le servir et guider, et pour guider d'autres personnes au salut. Dieu connaît vos craintes, mon ami, et il veut vous assurer de sa présence et de son appui pour accomplir son œuvre en vous et à travers vous. Vous vous rappelez sans doute qu'avant de remonter au ciel, Jésus a rassemblé ses disciples et leur a donné une mission avec une assurance. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. C'est le même Dieu qui s'appelle Je suis et qui a parlé à Moïse, qui nous assure aujourd'hui, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si vous êtes comme moi et comme Moïse d'ailleurs, vous ne doutez pas de la toute-puissance de Dieu. Il peut certainement faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il dit. Non, nous ne doutons pas de ses capacités, mais des nôtres. Moïse exprime ce doute dans Exode chapitre 4, versets 10 à 12. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Nous ne savons pas si Moïse bégayait, peut-être, ou qu'il avait du mal à formuler ses propos quand il était stressé, mais quel que soit son handicap, il trouvait qu'il lui manquait des qualifications requises pour servir Dieu. Pour ma part, j'étais toujours intrigué par les missions. Travailler pour Dieu dans des régions exotiques, quelle aventure! J'étais partant. Mais en réalité, je ne faisais que rêver. Le jour où Dieu m'a vraiment tapé sur l'épaule pour me dire « Richard, c'est toi que je veux », j'étais rempli de crainte, comme Moïse, de doute, et je me posais beaucoup de questions. Vous savez, servir Dieu n'est pas vivre comme une sorte d'Indiana Jones spirituel, allant d'aventure en aventure. Dieu a rappelé à Moïse que celui qui a créé l'homme avec ses points forts et ses faiblesses peut corriger tous ses défauts, voire travailler à travers eux pour permettre à son serviteur d'accomplir sa mission. Malgré cet appel, Moïse ne démordait pas, il ne voulait pas y aller, et c'était tout. Il a insisté que Dieu envoie quelqu'un d'autre, n'importe qui. Moïse avait évidemment plus de courage, dois-je dire audace, pour parler à Dieu qu'au Pharaon. Il avait certainement tort de contredire Dieu, mais ne soyons pas trop durs avec lui. Lorsque Dieu commence à parler à notre cœur concernant son service, il est tout à fait possible que nous aussi nous soyons assaillis par toutes sortes de doutes et craintes. Je suis trop vieux. J'ai déjà cherché à servir Dieu, mais ça n'a pas marché. Ou encore, personne ne me croira ou me soutiendra. Je ne sais pas amener les gens au salut. Peut-être nous pensons que les obstacles et les oppositions sont trop nombreuses et trop grandes. Ou nous nous disons, je ne suis pas haut, je ne suis plus qualifié. Je manque de compétences nécessaires. Il y a certainement beaucoup de personnes plus qualifiées que moi. Oui, nos doutes et nos craintes peuvent être des montagnes insurmontables à nos yeux. Mais apprenons ce que Moïse avait du mal à saisir. Que le secret de la réussite dans le service de Dieu n'est pas dans les capacités du serviteur, mais dans la présence active de celui qui l'appelle. Dieu n'a pas changé, mes amis, et il utilise toujours son peuple pour annoncer son salut. Et si vous êtes à lui, Dieu a une place pour vous dans son œuvre aujourd'hui. Confiez-lui vos doutes et vos craintes, si vous en avez, et vous verrez ce qu'il peut faire en vous. Et sachez que les responsables de l'Église ici sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans la mission que Dieu a pour vous.